Bon, nous allons commencer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette série de cours sur les grands tremblements de terre. Pour ceux qui ont suivi certains de mes cours les années précédentes, je change pas mal de sujets puisque les années précédentes, nous utilisions les ondes sismiques pour illuminer l'intérieur de la Terre et en déduire la structure et la dynamique. Aujourd'hui, enfin, dans cette série de cours, nous allons parler de la source de ces vibrations, donc des tremblements de terre. Alors, les tremblements de terre, c'est un phénomène, c'est une catastrophe naturelle assez terrifiante par son caractère soudain et jusqu'à présent imprévisible. C'est aussi un phénomène rare, même si on a l'impression qu'effectivement il y a un magnitude 8 tous les ans quelque part dans le monde en moyenne. Dans un endroit donné, les très forts tremblements de terre ne se répercutent que des dizaines, voire des centaines, à des intervalles de dizaines ou de centaines d'années. Donc la mémoire est courte et cela rend difficile la prévention du risque, étant donné qu'il y a toujours d'autres priorités, des priorités de santé, de sécurité, qui sont visibles au jour le jour, alors qu'un tremblement de terre, une fois qu'il est passé, on l'oublie au bout d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années. C'est aussi difficile de les observer, puisque nous pouvons les prédire, nous sommes limités à la collecte passive de données dans des régions où nous pensons que des tremblements de terre peuvent se produire. Et nous avons devant nous des grandes échelles, à la fois spatiales, donc regardées à l'échelle du globe, pour pouvoir en déduire des lois d'échelle ou des comportements similaires dans différents endroits, et aussi des échelles temporelles très grandes, puisque, comme nous allons le voir, et comme vous le savez sans doute, les tremblements de terre sont directement liés au mouvement des plaques tectoniques, qui, elles, se produisent aux échelles de temps géologiques. Et notre histoire, notre intervalle de temps pour lequel nous avons des données est quand même très restreint, puisque la sismologie instrumentale a à peine plus de 100 ans. Alors, chaque tremblement de terre nous apporte de nouvelles données. Chaque tremblement de terre est un exemple qui va nous aider à comprendre mieux le phénomène de manière générale. J'aime bien faire la comparaison avec les astronomes qui regardent les étoiles. Ils ont devant eux 14 millions d'années d'évolution qu'ils peuvent regarder en pointant sur différentes étoiles. Pour nous, le temps, qui est peut-être moins que 14 millions d'années, puisque l'âge de la Terre est moins de 5 milliards d'années, je voulais dire, nous avons tout de même un échantillon très très restreint de ce temps. Cependant, récemment, il y a eu pas mal de progrès, de faits, et nous savons déjà pas mal prédire à long terme ou comprendre un peu assez bien à long terme le phénomène sismique. C'est à court terme que nous ne savons pas prédire les séismes, et c'est ce qui nous distingue malheureusement des études des autres catastrophes naturelles, comme par exemple les ouragans, dont on parle beaucoup en ce moment, que l'on peut quand même suivre à plusieurs jours avant leur arrivée en un point donné. Et même la plupart des éruptions volcaniques donnent des signes précurseurs à plusieurs heures ou plusieurs jours. Alors, donc, ce cours va consister en 6 séances d'une heure et demie, donc le lundi de 15h30 à 17h. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y aura pas cours le 6 novembre, des cours toutes les semaines le mois d'octobre, deux cours au mois de novembre les 13 et le 20, et il sera suivi d'un colloque international qui sera tenu en anglais les 30 novembre et 1er décembre, donc jeudi et vendredi 30 et 1er décembre, qui va rassembler des spécialistes sur la question qui vont présenter leurs derniers travaux. Donc, le contenu du cours, aujourd'hui, et sans doute une partie de la semaine prochaine, je vais faire une introduction, aujourd'hui historique, certaines notions fondamentales. Si vous avez des notions de sismologie, vous allez peut-être vous ennuyer. Ensuite, je vais passer un certain temps sur les observations, ce que nous avons appris au cours du temps, au cours du dernier siècle, les observations sismologiques et géodésiques sur la rupture sismique et les derniers résultats obtenus à partir de l'analyse des données très, très abondantes de la dernière décennie. Je vais parler aussi d'un phénomène très intéressant qui attire beaucoup l'attention des chercheurs. C'est un phénomène qui est associé avec les séismes, mais dont on ne comprend pas jusqu'à présent exactement son rôle. Son rôle dans le cycle sismique, et il s'agit de séismes lents et des trémors non volcaniques. Un sujet tout à fait récent qui est vraiment les dernières 10-15 années. Et je vais parler ensuite aussi de comment on modélise en laboratoire et du point de vue numérique, comment on essaye de reproduire pour mieux comprendre la physique de ce qui se passe dans un tremblement de terre. Et à la fin, je parlerai un peu des problèmes de prédiction, de scénarios, développement de scénarios de séisme et d'alerte sismique, qui sont des éléments plus prometteurs que la prédiction à court terme à l'heure actuelle. Donc, voilà. Alors, pour commencer, un rappel sur les très forts séismes dans le monde. Alors, cette carte montre la distribution des séismes le lieu où se trouvent, où ont lieu les tremblements de terre. Ici, c'est sur une dizaine d'années dans le monde, avec en couleur leur profondeur. Alors, la plupart des tremblements de terre sont superficiels, se produisent dans les premiers 30 km de profondeur. Ce sont ceux-là qui sont aptes à créer le plus de dégâts. Mais dans certaines zones, comme vous voyez ici autour du Pacifique, on verra qu'elles sont associées avec les zones de subduction où une plaque plonge sous une autre, une plaque tectonique plonge sous une autre, on voit des tremblements de terre jusqu'à des profondeurs allant jusqu'à environ 680 km. Et donc ici dans l'ouest du Pacifique et en Amérique du Sud principalement. Alors les tremblements de terre les plus forts depuis 1900, donc un peu plus d'un siècle. Le plus fort tremblement, cette date est choisie parce que c'est depuis ce temps-là qu'on arrive à mesurer de manière relativement précise la magnitude du séisme. Nous parlerons plus tard de magnitude. J'utiliserai le nom de MW, c'est la magnitude du moment, qui est la magnitude acceptée actuellement comme étant la plus physique, l'échelle de magnitude la plus physique est donc utilisée par les chercheurs et les sismologues. Donc le plus gros tremblement de terre, c'est celui du Chili de 1960, qui a fait une rupture sur 1000 km ici dans le sud du Chili en 1960, du séisme de l'Alaska de 1964, magnitude 9.2, et plus récemment, le séisme de Sumatra de 2004, qui a fait une rupture de l'ordre de 400 km ou plus, 1300 km le long ici de l'arc de Sumatra, plus récemment, et a donné lieu à un très fort tsunami, comme vous vous souvenez sans doute. Et ensuite, nous avons le tremblement de terre de Kamchatka, celui du Japon de 2011, deux tremblements de terre en Amérique du Sud, et deux tremblements de terre près de Sumatra, encore une fois récemment, suite à ce séisme-là, et le tremblement de terre d'Assam de 1950, qui, vous le remarquerez, est le seul ici qui ne se produit pas sur la ceinture de feu donc du Pacifique, qui se produit sur la zone de convergence entre l'Inde et l'Eurasie. J'ai encadré en rouge les séismes, les très forts séismes, parmi ceux qui sont les plus forts donc depuis 1900, qui ont eu lieu dans les 10 dernières années. Et vous voyez que sur l'ensemble de tous les séismes, il y en a quand même 4 sur 11, je crois, qui ont eu lieu ces dernières années. Et ceci est... on pourra discuter de savoir si c'est le hasard ou si ce n'est pas le hasard, qu'ils aient été comme ça, qu'ils aient eu lieu dans un intervalle de temps relativement faible. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu lieu pendant une période de temps où nous avons une instrumentation sophistiquée, aussi bien sismologique que géodésique, qui a permis d'acquérir des observations très importantes et très intéressantes. Alors, il faut comparer cette liste-là avec celle des 10 séismes les plus meurtriers du XXIe siècle, donc depuis 2000, qui comprend Haïti, Sumatra, donc, comme nous avons déjà vu, le séisme de Wenchuan en 2008 en Chine, le séisme de Pakistan, le séisme de Bam en Iran, le séisme du Japon de 2011 et le séisme d'Inde et quelques autres séismes en Chine, en Algérie, au Java. Là, j'ai encadré de nouveau les deux séismes qui sont communs à ces deux listes, mais on voit tout de suite que les séismes les plus meurtriers, l'ensemble des séismes les plus meurtriers n'est pas égal à celui des séismes les plus forts. Et ceci, c'est simplement parce que les séismes meurtriers ont lieu dans des endroits qui sont peuplés. Alors, on peut regarder ça et voir ce que ça implique à l'heure actuelle. Si on regarde ici les endroits où ont lieu les séismes les plus meurtriers depuis 1000 ans, avec ici un code d'échelle qui varie avec le nombre de morts, on s'aperçoit qu'il dessine, on voit ici derrière, vous avez ici l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Europe, on voit qu'il dessine des bandes particulières qui coïncident à la fois avec des zones très peuplées et des zones de convergence dans la tectonique des plaques, comme nous allons le voir. Alors, on va comparer cette carte-là avec cette carte-ci qui montre où sont les mégapoles actuellement de plus de 2 millions d'habitants, comparées aux endroits sur la Terre où la déformation tectonique est la plus rapide. Et on voit tout de suite que la zone qui frappe le plus ici, c'est cette zone ici en Asie centrale, qui donc correspond aussi à une zone où d'une part très peuplée et aussi où la construction est fragile. Alors regardons de plus près cette région. Ici, c'est une carte de géophysique qui montre les vitesses de convergence entre les plaques. Ici, donc, on voit la France, l'Afrique, l'Inde et l'Arabie. Les flèches indiquent la direction et la vitesse de convergence des plaques. L'Inde est en train de rentrer dans l'Eurasie le long de l'Himalaya. On voit une vitesse de convergence de 5 cm par an qui est assez rapide. L'Arabie également. L'Arabie subit une rotation qui s'exprime aussi par la rotation de la plaque anatolienne ici. Et par contre, l'Afrique bouge relativement peu. Donc, si on superpose ça à la population, on s'aperçoit qu'il y a là, bien sûr, les gens qui habitent là sont assis sur des bombes. Alors, on voit ici, encore une fois, pour encore une fois montrer cette région, ici c'est le Tibet, l'Espagne, vous voyez l'Espagne, l'Afrique. On voit ici les grandes zones de métropole en bleu et par-dessus les régions qui ont été affectées par un grand nombre de victimes dues au séisme. Et vous voyez que c'est cette entière zone, en coloration ici, en marron derrière, on voit les zones de convergence. Ces zones-là sont particulièrement affectées. Alors ici, on voit en fonction de la longitude, ici c'est la longitude de 0 à 140 degrés de cette région, on voit superposer le nombre de décès dû à ces séismes, donc en gris avant 1800 et en rouge après 1800. On a séparé ces deux périodes parce que, d'une part, les séries d'avant de 1800 sont sans doute incomplètes et d'autre part aussi pour mettre en valeur d'éventuelles variations temporelles de ce rythme de tremblement de terre. Et en bas, c'est combien de tremblements de terre il y a eu avant 1800 et après 1800 parmi ces tremblements de terre dévastateurs. Et on voit encore une fois que le nombre de morts n'est pas du tout en relation forcément avec le nombre de tremblements de terre, ni leur force aussi. Donc on a un problème, c'est qu'effectivement le nombre de morts comparé au nombre d'habitants, ici en gris, c'est le nombre de morts donc cumulatif, hein, cumulatif en fonction du temps. On a un certain nombre de morts ici, on rajoute au fur et à mesure les morts des années suivantes, et comparé à la courbe de population croissante qui montre très bien une relation qui simplement n'indique pas forcément qu'il y a plus de tremblements de terre maintenant, mais que ces tremblements de terre ont des effets plus importants simplement à cause de l'augmentation de la population dans les régions à risque. Alors, une des notions les plus importantes avec lesquelles nous allons jongler, c'est celle de la taille du séisme, que l'on veut avoir une signification physique. Donc je reprendrai ça à plusieurs reprises, mais je voulais l'introduire tout de suite. Lors d'un séisme, ce que nous savons maintenant, en toute première approximation, une faille bouge, et cette faille peut être représentée par un rectangle d'une certaine longueur, L, et d'une certaine largeur, W, la largeur étant comptée vers l'intérieur de la Terre, et la longueur le long de la surface de la Terre. Et donc on peut définir la surface de rupture. Quelle est la surface sur laquelle ce plan de faille s'est rupturé? C'est un plan en première approximation. En détail, bien sûr, nous verrons que c'est beaucoup plus compliqué. Et la troisième dimension importante, c'est le glissement. De combien a bougé la faille? Donc on peut définir ce qu'on appelle le potentiel. J'ai traduit ça de l'anglais. En anglais, on dit potency. C'est le produit de la surface par le glissement moyen, donc qui donne une idée de la taille du point de vue géométrique. Et en multipliant ça par le module de cisaillement, donc le paramètre élastique qui intervient dans la génération des ondes sismiques, nous obtenons un moment qu'on appelle le moment sismique M0, qui est donc une mesure physique de la taille du séisme que l'on peut montrer est proportionnelle à l'énergie sismique dégagée. Alors, sur cette base a été construite une échelle de magnitude qu'on appelle l'échelle de magnitude MW, qui est simplement égale à 2 tiers du logarithme en base 10 du moment sismique. Ces moments sismiques ont des grandeurs très différentes suivant que le séisme est tout petit ou peut affecter une région de quelques mètres sur quelques mètres, ou un très grand séisme qui peut affecter des longueurs de 1000 km comme les séismes de Chili ou de Sumatra. Et donc on a besoin d'une échelle logarithmique pour les représenter, et la constante sert à relier cette échelle de magnitude avec des échelles de magnitude qui avaient été développées précédemment. Nous en reparlerons. Donc, par exemple, le séisme du Chili de 1960, qui a donc s'est produit ici, dans cette région du sud du Chili, la rupture correspondante est à une longueur d'environ 1000 km, donc du sud au nord, sur la largeur, donc sur la profondeur de la faille, mais ce n'est pas vraiment la profondeur verticale, puisque ces failles, on va le voir, sont inclinées. On a 150 km de largeur, donc le long de la faille en profondeur, et un glissement moyen de 50 mètres. Ça donne un potentiel de 7, 10 puissance 12 mètres cubes et une magnitude correspondance MW de 9,5. Pour le séisme de Sumatra, qui est donc le deuxième plus fort séisme, le plus fort séisme ressenti depuis depuis de ce siècle, magnitude W9.2, il a commencé ici au sud, donc en face de l'île de Sumatra, et s'est propagé vers le nord, le long d'un plan de faille qui en fait a une certaine courbure. Donc les notions qui vont être importantes, c'est où a commencé le séisme, avec quelle vitesse la rupture s'est propagée. Elle ne s'est pas propagée instantanément, elle a mis un certain temps à parcourir, à produire le glissement le long de toute la rupture finale. Donc le glissement en chaque point, de combien ça s'est déplacé en chaque point, qui va varier le long de la faille, donc la surface de la rupture, la durée aussi, quelle a duré, donc reliée bien sûr à la vitesse de la rupture, pour donc rompre de là jusque là. Alors je voulais vous montrer un petit film qui a été réalisé récemment avec des techniques modernes, nous reviendrons là-dessus, montrant la propagation de cette rupture qui a été, vous voyez, une longueur en temps d'environ 600 secondes. Et on voit très clairement qu'elle est partie du sud et allée vers le nord. C'est une technique basée sur la rétroprojection des enregistrements sismiques dans des réseaux de stations à très grande distance. Donc, voilà, l'étude des séismes. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est pas... Bien sûr, nous nous intéressons aux effets des séismes, donc combien les dégâts, les victimes des séismes. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre quelle est la source de ces vibrations qui donc créent les dégâts lorsqu'elles sont confrontées aux habitations, parce qu'on dit que s'il n'y avait pas de construction, il n'y aurait pas de victimes. C'est les constructions qui tuent les gens, ce n'est pas le séisme lui-même. Et donc, les éléments qui vont nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la source sismique, et son étude, c'est la sismogenèse. C'est l'étude des caractéristiques de la rupture, comment se produisent-elles aux différentes échelles spatiales et temporelles, comment intervient la complexité du milieu géologique. Vous voyez ici quelques exemples. Ça, c'est le séisme de Denali en Alaska en 2002, dont une partie de la rupture est visible en surface. Ça, c'est un séisme en Californie qui a aussi produit une rupture en surface. Pas tous les séismes ne produisent de rupture en surface. Bien sûr, lorsqu'on a une rupture en surface, ça nous aide à comprendre ce qui s'est passé. Mais la rupture en surface n'est pas forcément représentative de ce qui s'est passé en profondeur ou de la source qui a produit les vibrations les plus fortes. Et de nombreux séismes les plus forts ont lieu sous la mer ou n'ont pas du tout de rupture en surface. Donc ces études de terrain sont très importantes, mais ne sont possibles que pour certains séismes qui ont lieu donc, sur terre ferme. Ensuite, une fois que la rupture va provoquer des vibrations, des ondes qui vont se propager, des ondes sismiques, des ondes élastiques qui vont se propager loin de la faille, plus ou moins loin, et donc la propagation de ces ondes sismiques entre la source et le lieu d'observation est aussi importante. C'est l'étude de la structure dont nous parlerons un peu mais pas beaucoup. Et enfin, les effets de site, qui sont très importants pour déterminer les effets de tremblements de terre et qui dépendent de la géologie. Par exemple, ici, vous avez un exemple où de la géologie, de la densité des structures et de leur fragilité. Vous avez ici un exemple où certains immeubles sont restés debout, à peine touchés, et d'autres ont été complètement détruits, avec des distances très petites entre ces deux cas, qui, dans ce cas précis, sembleraient dépendre de la géologie sous-jacente, donc des propriétés du sol, qui va amplifier plus ou moins les vibrations lorsqu'elles arrivent à la surface. Et bien sûr, donc, la densité des structures et de manière générale, leur fragilité. Donc, on peut dire que l'étude des séismes, c'est l'étude d'un système naturel complexe associé avec, pour tous les effets, les structures apportées par les humains, dans les villes et les constructions, etc. Nous allons nous intéresser dans ce cours principalement à la source sismique. Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer les autres aspects. Je voulais simplement, avant de parler, de passer à un peu d'histoire, présenter qu'on a des outils modernes pour l'étude des séismes, qui sont des réseaux très nombreux de stations sismiques qui sont donc déployés à l'échelle locale, régionale et globale. Nous avons maintenant aussi, depuis quelques décennies, des réseaux de stations géodésiques, donc par satellite. Le GPS nous aide beaucoup à comprendre certains aspects des séismes, et également donc des mesures d'interférométrie radar par satellite qui nous aident à observer les séismes sur la terre ferme. Donc des méthodes satellitaires récentes qui viennent s'ajouter à celles des méthodes sismologiques qui ont été développées depuis plus d'un siècle. Et bien sûr, à cela s'ajoutent les observations géologiques de terrain et les observations de la paléosismologie qui va creuser des tranchées dans les failles et regarder les joints entre différentes couches sédimentaires, les dater pour déterminer les dates des différents séismes qui ont pu avoir lieu pendant les derniers quelques milliers d'années. Donc pour essayer d'étendre l'intervalle d'étude à de plus grands temps que n'est possible uniquement par les mesures instrumentales, donc qui n'ont à peine plus de 100 ans. Et bien sûr, j'ai déjà indiqué, je parlerai de modélisation numérique et analogique qui aide à la compréhension physique du phénomène. Alors, si ce sont les outils modernes, il faut mentionner bien sûr que les Chinois savaient déjà mesurer certaines propriétés des séismes dès le IIe siècle après Jésus-Christ. Ici, c'est le séismoscope et son inventeur Zhang Heng. Ce séismoscope, on n'en connaissait pas complètement le fonctionnement interne, mais on pense qu'il avait... C'était un récipient en bronze d'à peu près 2 mètres de diamètre qui contenait un poids suspendu et 8 dragons dans différentes directions qui étaient en face, dont les bouches étaient en face de bouches de grenouilles disposées tout autour de ce séismoscope. Et lors d'un tremblement de terre, le pendule va osciller dans une certaine direction qui va lui être donnée par la direction du mouvement des ondes sismiques et va ouvrir la bouche. Ah oui, j'ai oublié de dire le plus important, c'est que donc ces dragons contiennent des boules. Donc, lorsqu'il ne se passe rien, ces boules donc sont enfermées dans la bouche du dragon. Lorsque la masse se déplace, elle va ouvrir la bouche du dragon et la boule en question va tomber dans la bouche de la grenouille. Et le système comprenait un mécanisme pour une fois que, disons, l'une des bouches était ouverte, le dragon était ouvert, cela bloquait les autres, et donc on avait une mesure dans une seule direction, parce que bien sûr, avec les vibrations, si elles n'étaient pas bloquées, on finirait par faire tomber toutes les boules. Par contre, le détail de comment c'était fait n'est pas connu. Donc ça permettait, déjà au IIe siècle après Jésus-Christ, de savoir la direction dont venaient les ondes sismiques. Mais on ne pouvait pas en déterminer ni la distance ni la magnitude. Alors la sismologie est une science. La sismologie est une science récente. J'aime toujours montrer cet enregistrement, qui est le premier enregistrement d'une onde sismique à grande distance, ou la première réalisation qu'on peut enregistrer des ondes sismiques à très grande distance de la source. C'est un enregistrement d'un pendule horizontal fait par von Reuber-Paschwitz, qui n'est pas l'amiral Hubert von Neuburg bei Schwyz, mais un astronome allemand qui donc avait installé des pendules dans deux villes, à Potsdam et une autre ville allemande. Et c'était pour mesurer les déflexions de la verticale dans ces endroits. Et un jour, il a observé cette perturbation qu'il a observée dans les deux stations, donc ce n'était pas une perturbation locale. Et quelques jours après, en lisant les journaux, ou plus tard, enfin, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, il a réalisé qu'à ce moment-là, il y a eu un séisme au Japon, donc, et a fait le rapprochement que ces ondes provenaient de ce séisme. Et donc, l'article dans Nature raconte comment il était frappé par la coïncidence en temps en temps du séisme du Japon avec cette perturbation singulière qui était donc enregistrée par les deux pendules horizontaux dans les observatoires de Potsdam et Wilhelmshaven. Donc c'est comme ça qu'est née la sismologie globale, et c'est important pour l'étude des séismes parce que, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas, à l'heure actuelle, il est pratiquement impossible de couvrir la Terre de suffisamment nombreuses stations sismiques pour des raisons simplement économiques qui permettraient d'étudier tous les séismes qui se produisent en champ proche, c'est-à-dire à des distances courtes. Et donc, on est obligé de se référer à des observations lointaines. Mais donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas déjà connu ça, voici une simulation montrant comment les ondes sismiques se propagent à l'intérieur de la Terre. Vous voyez ici des ondes S qui se propagent, qui se réfléchissent sur toutes les discontinuités internes de la Terre. Ça, c'est la limite entre le noyau et le manteau. Ceci, c'est la graine solide. Et vous avez ici deux stations, et je vais recommencer. Lorsque les ondes arrivent, donc vous pouvez les suivre, elles vont arriver à un certain moment à cette station-là, donc la station va enregistrer des vibrations, puis elles vont progresser plus loin, une autre station va enregistrer les ondes un peu plus tard. Lorsqu'elles se propagent, les ondes vont s'atténuer parce que la Terre n'est pas complètement élastique et donc plus vous êtes loin de la source et moins fortes seront les vibrations. Alors, les principes du sismomètre, très rapidement, on utilise le principe d'inertie. C'est donc une masse, une grande masse suspendue à un ressort qui lui-même est suspendu à un support qui est solidaire de la Terre, donc le support bouge avec la Terre lorsque passent les ondes sismiques, et l'inertie de la masse fait que la masse veut rester en place, et donc on enregistre autrefois, avant l'ère digitale, on enregistrait sur des tambours au moyen d'encre ou parfois du papier photographique. On enregistre le mouvement relatif entre le poids qui est stationnaire et le support qui contient aussi ce tambour et qui donc vibre avec les mouvements de la Terre. Alors vous pouvez comprendre que ce système inertiel est un très bon système, mais qu'il va filtrer les ondes suivant la façon dont il est construit. Et donc ce qu'on va enregistrer, ce n'est pas exactement le mouvement du sol, mais c'est le mouvement du sol filtré par ce qu'on appelle la réponse instrumentale du système. Alors, bon, pour ceux qui aiment les mathématiques, les équations sont celles du pendule amorti, et donc la construction moderne des sismomètres est maintenant très sophistiquée, où on évite, par exemple, d'avoir des mouvements trop larges lors de très forts tremblements de terre. Autrefois, les enregistrements saturaient, c'est-à-dire que la pointe du crayon ici sortait des marges du papier, et donc on ne pouvait pas vraiment savoir quelle était l'amplitude du mouvement. Maintenant, on utilise des masses assujetties à ne pas bouger. On utilise des systèmes électroniques pour les maintenir en place complètement. Et c'est la force qu'on en doit appliquer pour les maintenir en place, qui est donc traduite ensuite en accélération ou vitesse sismique. En fait. Alors ça, c'était pour un sismomètre vertical, mais pour un sismomètre horizontal, on peut faire la même chose. Et là, j'ai un petit film qui est assez bien fait, montrant qu'il ne se passe rien. Là, et on va bientôt voir arriver des ondes sismiques provenant d'un tremblement de terre lointain. Ça, c'est l'onde P, la première onde, et paf, elle va produire une perturbation qu'on enregistre. Alors, si on profite pour vous rappeler qu'il y a deux types d'ondes sismiques, les premières, P, c'est les ondes P qui arrivent les premières et qui voyagent avec des vitesses les plus rapides, et elles sont suivies des ondes S. Et vous voyez tout de suite ici sur ce sismogramme que les ondes S correspondent à des amplitudes plus grandes. Ce sont les ondes S qui créent les dégâts. Les ondes P, en général, ont un mouvement qui est surtout vertical. Or, les constructions sont faites pour résister aux mouvements verticaux, à la gravité. C'est comme ça qu'on construit les maisons et les immeubles. Par contre, ils sont beaucoup plus vulnérables aux mouvements horizontaux. Ils sont construits, bien sûr, pour résister au vent, mais cela ne suffit pas forcément pour résister aux très grandes accélérations subies au cours des séismes. Donc, ça va nous apporter l'idée, quand je parlerai d'alerte sismique, qu'on va exploiter le fait qu'il y a ces deux ondes qui se succèdent, la première étant plus rapide mais moins dangereuse, et la seconde plus dangereuse mais arrivant un certain temps plus tard. Alors, actuellement, il y a de nombreuses stations sismiques dans le monde. Pas assez, bien sûr, mais un très grand nombre qui fournissent des enregistrements. Ça, c'est l'ensemble des observatoires globaux qui donc, pour vous donner une idée, qui communiquent les informations sur les séismes. Vous voyez, certaines zones en Europe et Amérique du Nord sont particulièrement bien instrumentées, et certaines zones donc de sismiques aussi en Amérique du Sud, au Japon, etc. Alors, nous allons passer à un peu d'histoire pour comprendre un peu comment s'est développée la sismologie et comment on en est arrivé aux principes fondamentaux sur lesquels s'appuient les recherches actuelles. Alors, au Japon, on crut longtemps que les séismes étaient provoqués par la colère du poisson géant Mimizu. En Europe, on avait l'idée d'une terre formée de cavités contenant de l'eau en ébullition et des cavernes contenant de l'eau bouillante et des feux qui donc provoquaient les séismes, les éruptions volcaniques. Et bien sûr, il y avait les vents qui soufflaient du haut. Le plus gros tremblement de terre, le tremblement de terre le plus dévastateur que l'on pense connaître, c'est celui en Chine, de Huaixian, le 23 janvier 1556. Il en reste des vestiges. Il est considéré comme le plus meurtrier de tous les temps. Et la magnitude estimée à partir des récits et des traces qui en restent, et de l'ordre de 8 à 8,3. Il y a eu 830 000 morts répertoriées, et sans doute beaucoup plus en réalité. Et donc ce tremblement de terre a été suivi de répliques qui ont continué assez fréquemment pendant les premiers 6 mois et se sont fait sentir encore pendant 5 ans plus tard. Alors c'est ce tremblement de terre dont on estime l'épicentre, donc le lieu où commençait la rupture, le lieu du tremblement de terre, ici dans la province de Shaanxi. Et ça, c'est la province de Shaanxi, mais il a affecté toutes ces autres régions très fortement, donc en Chine. Du côté de l'Europe, c'est le séisme de Bâle qui ramène à 356, sa magnitude estimée entre 6,2 et 6,9, suivant qu'on regarde les... Je vais parler des intensités sismiques dans un instant. Celles enregistrées en France, ou disons répertoriées en France, et celles répertoriées en Allemagne. Ce séisme était, et donc, a provoqué plus de 300 morts, et a été, la cité ensuite a été détruite par un incendie. Et ce qui est important, c'est que ce séisme a été pris comme référence, par exemple, pour la construction de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ensuite, il y a eu comme séisme remarqué le séisme de Lisbonne de 1755, qui a eu lieu le jour de la Toussaint, donc tout le monde était à l'église. Et donc ce séisme, qu'on estime à une magnitude 8,5 ou 9, a fait un grand nombre de morts, d'une part à cause de la concentration des gens dans l'église, mais aussi parce qu'il a été suivi d'un tsunami. Les gens sont sortis pour voir les vagues, pour voir la mer se retirer, et la mer est revenue et les a emportés, comme cela se passe malheureusement généralement lors des tsunamis. Et donc ça a été l'occasion des premières, des premières estimations un peu scientifiques, des premiers rapports un peu scientifiques de la question. Un astronome de Cambridge, 1760, à qui on attribue d'ailleurs la prévision qu'il y a des trous noirs, hein, c'est une autre de ses contributions, a remarqué que ce qu'il ressentait au cours de ce séisme était une vibration, un peu un tremblement, un tremblement de courte durée suivi par une ondulation comme une onde. Alors c'est bien sûr l'onde P suivie de l'onde S qu'il a reconnue, et il a proposé que les séismes sont dus au déplacement de masses rocheuses à grande profondeur, bien que la nature de ces déplacements n'était pas vraiment bien expliquée. Et aussi a proposé que donc ils se propagent, les séismes se propagent, c'est pas vraiment les séismes, c'est les ondes qui en sont engendrées par ces séismes sous la forme d'ondes dans la terre solide. Donc quand même déjà des remarques importantes. Alors ce séisme bien sûr a eu un impact très important en Europe sur les philosophes, et donc en particulier donc Voltaire a écrit son poème sur le désastre de Lisbonne, qui l'a beaucoup déçu sur les croyances en ce qui provient de Dieu, donc des biens de Dieu, et c'était donc une querelle avec les philosophes comme Leibniz, mais aussi avec Rousseau, donc qui en a suivi. 30 ans plus tard, il y a eu un séisme en Calabre, 1783, qui a aussi, en fait, c'est pas un séisme, c'était une suite de 5 séismes de magnitude environ 7, qui fit presque le même nombre de morts, autour de 50 000 morts. Et a provoqué des tsunamis et des glissements de terrain, mais qui a été beaucoup moins remarqué, sans doute parce qu'il n'a pas eu lieu ni à Lisbonne, ni à Naples, comme me suggère mon collègue Jean-Paul Poirier. Alors, venons au XIXe siècle. Le séisme de Naples, 1857, c'est en fait le début de la sismologie en tant que science, ou la compréhension du séisme, plus rigoureuse, qui est due à un ingénieur civil irlandais qui travaillait sur la propagation des ondes élastiques et qui s'est intéressé au séisme. Il a écrit un texte sur la dynamique des séismes et a en particulier étudié ce séisme de Naples qui a fait 11 000 morts en décembre 1857. Il a écrit un recueil appelé « Les premiers principes de la sismologie observationnelle » et a reconnu certains éléments importants. La reconnaissance que la source n'était pas complètement superficielle, qu'elle était à une certaine profondeur, estimée à 15 km, que les ondes sismiques se propagent à des vitesses différentes dans différents matériaux, donc la géologie est importante, Les ondes sismiques ressemblent aux ondes sonores qui se propagent dans l'air. Donc c'est les premiers jalons dans la compréhension de la propagation des ondes et de leur nature. Et c'est lui qui a le premier proposé des notions d'intensité sismique. Alors je voulais en parler un peu. Il a créé avec, je crois que c'était son frère, une carte de la distribution globale des zones sismiques qui est très intéressante parce qu'elle est assez conforme à la réalité. La seule chose qui manque, vraiment, ce sont les séismes des dorsales médio-océaniques qui sont en général de plus faible magnitude et en plus ils se produisent sous la mer, donc sont peu ressentis sur la Terre. Donc cette carte, elle est basée uniquement sur les rapports, sur les documents trouvés, donc les documents historiques trouvés donc dans ces endroits de tremblements de terre. Mais elle reproduit assez bien ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, donc venons-en à la notion d'intensité sismique. Cette mesure est très importante, mais n'est plus ce qu'on utilise maintenant pour caractériser la force des séismes. Elle est uniquement basée sur les effets ressentis, hein, donc pré-instrumental. Et diverses échelles ont été proposées. On se réfère le plus souvent à Mercalli, qui est le premier à avoir établi une telle échelle complète en 1883. Et maintenant, l'échelle qu'on utilise est appelée la MMI, l'échelle modifiée de Mercalli, qui comprend 12 degrés d'intensité. Elle est remplacée, du point de vue scientifique, par les échelles de magnitude plus rigoureuses et reflétant plus la physique de la source. Mais ces échelles d'intensité sont très importantes pour évaluer la force des séismes historiques, donc pré-instrumentales. Alors bon, je vais passer assez rapidement sur cette échelle, mais simplement pour vous montrer rapidement les degrés différents. Donc le premier degré, aucun mouvement n'est perçu, séisme n'est détecté que par les instruments, et quelques personnes dans des conditions particulières où le bruit de fond est très faible et où elles peuvent détecter ressentir, soit entendre le séisme parfois. Ensuite, bon, ça augmente. À l'échelle 5, la plupart des gens ressentent le mouvement. Les personnes sommeillant sont réveillées. Les portes claquent, la vaisselle se casse, les tableaux bougent, les petits objets se déplacent, les arbres oscillent, les liquides peuvent déborder de récipients ouverts. Donc on voit déjà une grande différence de perception de ce genre de séisme. Et quand on arrive à 6, tout le monde a senti le tremblement de terre et on a déjà des dommages légers dans les bâtiments mal construits. Et ça continue comme ça jusqu'aux grandes intensités. À 9, tous les immeubles subissent de gros dommages, les maisons sans fondation se déplacent, quelques conduits souterrains se brisent, la terre se fissure. Et le dernier degré, presque tout est détruit, le sol bouge en ondulant. Ça a été observé, par exemple, dans le séisme d'Assam de 1950, et de grands pans de roches peuvent se déplacer. Donc, une échelle descriptive qui décrit les dommages et les effets observés des séismes, mais qui est quand même très utile pour pour estimer le lieu et la taille des tremblements de terre pré-instrumentaux. Alors ici, je montre, on peut ensuite établir des cartes qu'on appelle des cartes isosismiques. On fait des contours correspondants aux endroits qui ont ressenti le séisme à peu près au même niveau. Et donc ces contours vont décrire plus ou moins des cercles concentriques, donc centré dans l'endroit où l'intensité est la plus forte et qui va correspondre à la proximité de l'épicentre de l'endroit où s'est produit le séisme. Alors vous voyez que ces courbes, ça c'est pour le séisme de Charleston en Caroline du Sud de 1866 avec une intensité maximale de 10 et on voit que ces courbes ne sont pas vraiment régulières. Elles seraient régulières si la seule chose qui comptait, c'était la distance par rapport au séisme. La distance compte parce que, bien sûr, les zones s'atténuent avec la distance, mais d'autres facteurs interviennent. D'abord, les effets ne sont pas observés partout. De la même manière, la géologie va jouer, comme nous allons voir. Ici, on a quand même des effets importants. J'attire votre attention qu'on a quand même encore une intensité de 3 à plus de 1000 km de distance de l'épicentre. Je montre ici pour... un peu contrasté avec des, disons des, ce qu'on utilise de manière moderne, un modèle de prédiction des vibrations en fonction de la magnitude et de la distance, et qui montre, donc, à partir de calculs et de mesures modernes, comment les destructions sont fonction à la fois de la magnitude et de la distance. Donc, si vous êtes proche du séisme, vous avez plus de dégâts que si vous en êtes éloigné. Et bien sûr, quand la magnitude augmente, vous voyez également. Le séisme qui a joué un rôle très important dans le développement de la science sismologique, c'est le séisme de San Francisco de 1906, estimé à une magnitude parfois de 7,9, parfois de 7,8. Ce séisme a donné lieu à des observations de la rupture de la faille en surface. Ici, c'est une photo très connue. Il y a des descriptions de vaches tombées dans les fissures qu'on peut lire. Il a été aussi très dévastateur, non tellement par le séisme lui-même, mais par l'incendie qui en a suivi. Vous voyez ici les deux effets, l'effet des éboulements des constructions, des immeubles, mais aussi en arrière, les fumées provenant de l'incendie. Alors ce séisme, on a déterminé que la rupture correspondante a couvert 430 km de longueur donc en Californie du Nord. Elle a commencé près de la ville de San Francisco, dans la partie centrale de la Californie, et s'est propagée vers le nord, sur 430 km. Et donc des observations de surface, de barrières décalées, ici de près de 6 mètres, près de Olema, qui est donc un peu ici, un peu au nord de San Francisco. Quelques autres images de fissures, affaissement du sol dans la ville de San Francisco au sud de Market Avenue, et donc les destructions de l'hôtel de ville de San Francisco. Ce qui est marqué sur cette carte, donc c'est une carte de la Californie, avec la rupture de la faille de 1906 et par comparaison, la rupture de la faille au cours du séisme de 1989, qu'on appelle le séisme de Loma Prieta, dont je vais vous montrer quelques images aussi, mais qui, lui, a couvert une très... qui est à magnitude 6,9, donc presque 1 degré de magnitude plus faible, et dont la rupture est, de manière correspondante, beaucoup plus courte. Alors, qu'est-ce que nous a appris ce séisme ? Il nous a appris plusieurs choses importantes. D'abord, que l'intensité des vibrations, donc l'intensité qui sert à donc déterminer dont on se sert pour faire l'échelle d'intensité, elle dépend bien sûr de la distance à la faille, mais elle dépend aussi de la nature du sol. Alors déjà, ça c'est une carte de l'intensité correspondant au séisme de 1906, où vous voyez les intensités les plus fortes très proches de la faille, et plus on s'en éloigne, plus l'intensité est faible. Mais comparé avec ce que je vous ai montré du séisme de Charleston, ici les intensités de 2-3, entre disons 3 et 4, ne couvrent que peut-être 200 km. De distance à partir de la faille, alors que dans l'est des États-Unis, on allait ressentir ce séisme jusqu'à plus de 1000 km. Ça, c'est un effet de la structure géologique des roches comparée entre la région d'activité tectonique très récente aux États-Unis, où les roches sont fracturées et vont atténuer les ondes assez rapidement, et la partie est des États-Unis, qui repose sur un socle plus ancien et donc qui transmet plus facilement les vibrations, donc à plus grande distance. Donc ça, c'est la première chose au niveau, pas global, mais régional. Et maintenant, dans la ville de San Francisco, on a aussi observé des niveaux d'intensité très différents suivant les endroits. Ici, les niveaux d'intensité rouge sont des intensités très fortes. Par contre, en jaune, on a des intensités beaucoup plus faibles. On raconte qu'il y a des gens dans les collines qui correspondent en fait aux collines de San Francisco. San Francisco est fait de collines avec entre les collines des vallées renflouies de sédiments et des régions qui ont même été remblayées pour gagner de l'espace solide par rapport à la mer et ces zones comme la marina ici du nord de San Francisco sont les zones les plus fragiles en cas de séisme. Mais on raconte que les gens qui dormaient parfois dans les collines, certains n'auraient même pas été réveillés. Bon, c'est un peu difficile à croire étant donné que la faille est passée vraiment pas loin, mais c'est pour donner l'idée de ces variations très importantes à des distances extrêmement faibles, donc d'un point à l'autre. Ici, on compare deux cartes qui ne sont peut-être pas très claires, mais on compare une carte des intensités donc ressenti au cours du séisme de San Francisco 1906, avec les couleurs décroissantes du bleu le long des zones renflouies, ici et là, du vert, les zones sédimentaires, rose et jaune, donc dans les collines. Et à droite, on a en comparaison la géologie, montrant les socles en roches dures en couleur foncée, donc marron et mauve ici, et en couleur claire, les alluvions et les remblais. Et vous voyez la correspondance quand même assez frappante des régions qui ont subi le moins de dégâts, les moins fortes intensités, ici et là, avec la géologie sous-jacente. Et pour le montrer encore mieux, ici nous avons une image de maisons affaissées dans la région de la Marina, dans le quartier de la Marina, donc au nord de la ville de San Francisco, pendant le séisme de 1906, et comparé à ça, les dégâts pendant le séisme de 1989, donc de Loma Prieta, de magnitude 1 degré de magnitude de moins fort, qui correspond, je ne l'ai pas dit, mais à peu près 30 fois moins d'énergie dégagée sismique. Et vous voyez aussi le même genre de dégâts, tout de même, donc, de ces deux séismes. Et en plus, le séisme de Loma Prieta, l'épicentre était loin, était à une centaine de kilomètres de la ville de San Francisco. Alors ça, c'est la première réalisation importante, c'est que les effets de site sont très importants dans les dégâts provoqués par les séismes. L'autre résultat très important est basé sur les observations de la rupture elle-même. Donc ici, de nouveau, cette barrière déplacée au cours du séisme. La flèche indique la faille ou la surface, l'expression de surface de la faille. Donc qui se prolonge en profondeur. C'est une faille pratiquement verticale, presque verticale, avec un mouvement qu'on appelle un mouvement de cisaillement dextre. Donc le côté, quand on est sur un côté de la faille, l'observateur ici, par exemple, comme on regarde cette photo, l'autre côté se déplace vers la droite. Et ces observations, ainsi que des observations géodésiques de triangulation que je vais montrer dans un instant, ont permis de développer la théorie du rebond élastique que l'on doit à Reed dans son rapport de 1910 suivant le séisme, où il a proposé. Alors, bon, là, c'est les notations modernes, puisque celle-ci, ça prédate la tectonique des plaques, mais où nous avons un côté de la faille qui se trouve être sur la plaque nord-américaine et l'autre sur la plaque pacifique, qui se déplacent l'un par rapport à l'autre, donc dans un sens, dans une direction dextre. Les forces sont appliquées au loin. Lorsqu'on construit la barrière, elle est droite. Au cours du temps, dû aux forces appliquées, les forces lointaines appliquées, les roches vont se déformer des deux côtés de la faille, mais la faille est coincée. Les roches sont coincées le long de la faille, donc juste le long de la faille, il n'y a aucune déformation, aucun mouvement. Arrive un moment où les forces appliquées excèdent, les contraintes appliquées excèdent la résistance des roches, et c'est à ce moment-là que va avoir lieu un séisme, donc de manière instantanée. Cette période-là, ça peut couvrir quelques dizaines ou centaines d'années, ça dépend des endroits. Ceci se produit en quelques secondes à quelques minutes. Vu ici par une représentation un peu plus imaginative, vous avez la même chose, une faille traversant une barrière, avec en plus une vase, le mouvement des plaques provoquant une déformation lente pendant des années, des dizaines d'années, et tout à coup, la rupture le long de la faille et les ondes engendrées qui vont provoquer les vibrations, qui provoquent les dégâts avec les observations. Alors, pourquoi, il y a eu bien sûr les observations de surface, les déplacements le long de la faille, montrant que ces déplacements étaient concentrés le long de cette faille, sur de nombreux kilomètres, mais aussi les observations géodésiques. Donc, à l'époque, c'était des réseaux de triangulation qui consistaient à mesurer les angles entre différentes bornes, et qui avait été installé. Alors, je suis désolée, je n'ai pas trouvé cette figure en plus haute résolution, mais il y avait des réseaux de triangulation installés au XIXe siècle, dans les années 1850 et 1890, qui ont donc été mesurés avant le séisme, dans différents endroits le long de la faille de San Andreas, cette faille qui a rompu pendant le séisme de 1906, et qu'on a remesuré après le séisme. Et on s'est aperçu justement qu'on avait cette situation où pendant de longues années, la déformation existait au loin de la faille, mais il n'y avait pas de déformation au niveau de la faille, et que ceci, ça a été réajusté au moment du séisme. Et plus tard, en réexaminant ces données de manière plus moderne, Thatcher a proposé un scénario un peu plus complexe, en définissant plusieurs périodes, une période pré-sismique, deux périodes pré-sismiques, une période au début, juste après le précédent séisme. Donc tout est en ligne, les déformations il y a eu les réajustements, la déformation a été annulée. L'application des forces lointaines va provoquer des déformations au loin et en grande profondeur. Au moment du séisme, qu'on appelle le moment co-sismique, on a ce réajustement le long de la faille, et souvent on observe, on verra que ça joue un rôle important dans les études modernes, une phase post-sismique de déformation lente qui ne se manifeste pas par des vibrations sismiques, mais qu'on peut capturer par des méthodes de mesure très fines géodésiques par GPS, par exemple. À plus longue échelle, donc à l'échelle du temps géologique, la faille, ça donne l'idée d'un cycle sismique, la faille se rompt, les deux côtés de la faille se réajustent, les forces sont appliquées de nouveau on déforme, de nouveau la faille va se rompre, etc. Et au bout de millions d'années, on va voir des effets comme celui-ci, qui est assez, j'aime beaucoup, encore une fois, ce n'est pas une très bonne résolution, Je n'ai pas retrouvé cette photo en plus haute résolution, mais elle me frappe beaucoup. Ici, c'est la faille de San Andreas, indiquée par une flèche. Vous avez ici un cours d'eau sur la partie lointaine de la faille. On est ici, l'observatoire est de ce côté-là de la faille, donc les mouvements vont être vers la droite en allant de l'autre côté de la faille. Vous avez des cours d'eau qui viennent des montagnes, ici, un cours d'eau, dont le lit est déplacé d'une certaine distance, qui peut être quelques kilomètres, et qui maintenant dont le cours d'eau est maintenant à cet endroit-là, alors qu'à l'origine, et on peut le dater en datant les roches de part et d'autre, qu'il y a quelques millions d'années, ces deux chenaux étaient l'un en face de l'autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que la faille s'est déplacée, la topographie de ce côté-là de la faille était plus haute que celle qui avait été creusée par le chenal au début. Et donc, cette topographie est venue bloquer le cours de l'eau. Et donc, le cours d'eau s'est déplacé pour retrouver les pentes, pour la topographie qui est donc propice à l'écoulement de l'eau. Et donc ceci, en datant les roches et en mesurant les déplacements, nous donne une idée des déplacements au cours des temps géologiques le long des failles importantes continentales, aussi bien le long de la faille de San Andreas que par exemple aussi dans les grandes failles de l'Asie centrale. Donc ça, c'est pour le séisme de San Francisco, qui donc nous a appris principalement deux choses. Le fait que l'intensité sismique n'est pas quelque chose de forcément aussi simple, que ça dépend beaucoup des effets de site, aussi que donc nous a donné la théorie du rebond élastique, qui jusqu'à présent est une théorie de base qui sert de référence pour les études présentes. Alors, ce qui est arrivé ensuite, c'est bien sûr la tectonique des plaques. Alors, la dérive des continents a été proposée par Wegener en 1915, basée sur certaines observations, l'observation de la similarité des côtes entre l'Afrique d'une part et l'Amérique du Sud, et l'Amérique du Nord et l'Afrique du Nord, et aussi des considérations sur la nature des roches du part et d'autre de l'Atlantique, et la nature de la faune et de la flore. Mais donc ça, c'était il y a presque 100 ans. Cette idée pourtant très frappante n'a pas été acceptée pendant longtemps parce qu'il y avait un débat très, très virulent sur la raison pour laquelle les masses continentales pourraient se déplacer. Et il a fallu attendre le développement de la mécanique des fluides et les observations des anomalies magnétiques dans le fond des océans pendant la... qui résultaient des mesures faites pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour accepter enfin la théorie de la tectonique des plaques qui nous dit que la partie superficielle de la Terre est constituée d'un certain nombre de plaques rigides qui sont en mouvement les unes par rapport aux autres, dues à des courants de matière très lents, on parle de centimètres par an, etc., de l'ordre de centimètres par an, dues à des mouvements de convection dans le manteau terrestre. Le manteau terrestre, à l'échelle de la transmission des ondes sismiques, se comporte comme un solide, mais à l'échelle de l'année et à l'échelle géologique, se comporte comme un fluide et donc est animé de courant. Nous n'allons pas parler de cette partie-là tellement, simplement pour remettre en place le fait que la Terre est constituée d'une vingtaine de plaques plus ou moins grandes qui donc se déplacent les unes par rapport aux autres. Ce qui est important dans la théorie de la tectonique des plaques en ce qui nous concerne, c'est que la déformation est concentrée aux bordures des plaques. Donc, on parlera de ça un peu plus, c'est différent. Certaines plaques convergent, comme ici, l'une vers l'autre, d'autres plaques coulissent l'une par rapport à l'autre, d'autres plaques dans les rides océaniques divergent, c'est là où se forme la croûte nouvelle. Et la déformation, dans cette théorie simple de la tectonique des plaques, est donc uniquement en bordure de plaques, ce qui est, vérifié par les modèles de mouvement de plaques que l'on peut actuellement déterminer à partir des mesures géodésiques, donc essentiellement des mesures GPS, comme ici, montré ici, où vous avez ces flèches qui montrent les directions et l'amplitude des mouvements, donc la vitesse de mouvement. Ici, comme échelle, vous avez 50 mm par an, hein, donc 5 cm par an. Certaines plaques vont plus vite que les autres. La plaque pacifique se déplace très rapidement. La plaque de l'Afrique, ça dépend comment, par rapport à quoi on la mesure, est plus lente. Et les mesures géodésiques actuelles nous confirme au premier ordre cette réalité de la déformation concentrée au bord des plaques et nous permettent d'obtenir des cartes globales de la vitesse de déformation qui sont ici indiquées donc en fonction de la déformation. Alors la déformation, c'est une quantité sans dimension, c'est le changement de longueur divisé par la longueur de référence, donc les unités sont la vitesse de déformation donc se définit en quantité par an, ici en unité de 10 puissance moins 6 par an, et vous voyez les zones de déformation les plus fortes, certaines sous les rides océaniques qui nous importent peu pour différentes raisons dans le cours de cette année. Et les zones, par contre, autour de l'Amérique centrale et du Sud, le long de la faille de San Andreas, l'Alaska, les Alaoutiennes, toute la bordure du Pacifique, des vitesses de déformation très importantes. Alors, la géodésie nous permet de cartographier ces déformations en plus de détails. Ici, je donne un autre exemple régional. On voit toutes ces flèches montrant, et la longueur des flèches est proportionnelle à la vitesse de déformation. Ici, la référence, c'est ce vecteur-là de 33 cm par an. Donc, c'est des mesures relatives. On suppose qu'on a un point de référence à l'intérieur de la plaque nord-américaine qui ne bouge pas, et on regarde comment l'ouest des États-Unis, ici, à l'ouest de la zone de la faille de San Andreas, bouge par rapport à ce point fixe. Et on voit comment ces mouvements se changent de ce qu'on a le long de la faille de San Andreas, qui est une faille coulissante dextre, vers le nord ici, de nord-ouest des États-Unis, où on a une zone de subduction avec donc une convergence de la plaque de Juan de Fuca sous la plaque Nord-Amérique, qui constitue un souci important à l'heure actuelle, nous en reparlerons, car on pense que toute cette zone pourrait casser d'un seul bloc dans un énorme tremblement de terre de magnitude 9, comme on a des données historiques correspondant à le dernier tremblement de terre aurait eu lieu en 1700, comme manifesté par une tradition orale des Indiens d'Amérique, mais aussi des mesures de hauteur de tsunami engendrées par ce séisme au Japon. Nous en reparlerons. Il y a aussi, bien sûr, des mesures géologiques montrant qu'il y a eu des séismes très forts dans cette région au cours des temps. Donc ici, encore un plus de détails pour la région elle-même de San Francisco, montrant que la déformation se divise suivant un certain nombre de failles presque parallèles entre elles. Et donc, ces amplitudes vont donner lieu à des estimations de la probabilité des séismes dans cette région dont nous parlerons plus tard. Donc on peut replacer déjà ce dont on a parlé sur la faille de San Andreas, suivant le développement de la théorie donc du rebond élastique dans le cadre de la tectonique des plaques, avec donc cette faille dans son contexte tectonique de mouvement relatif de la plaque pacifique et de la plaque nord-américaine. Et ici, les grands séismes historiques de Californie, avec celui de San Francisco dont nous avons parlé, mais aussi celui qui a affecté la région de Los Angeles en 1857 et qui était donc comparable de taille. Il y en a eu un autre en 1872 dans la vallée d'Owens, donc plus en arrière. Donc revenons à ceci. Donc nous avons différentes bordures de plaques. Les plaques s'écartent. L'une plaque penche sous l'autre. C'est là que nous allons avoir les séismes les plus forts. Nous allons le voir. Et des zones où nous avons donc une plaque qui coulisse par rapport à l'autre. Et ce sont le long de ces bordures des plaques que la sismicité se concentre. C'est une autre représentation de carte que je vous ai montrée tout à fait au début, montrant donc la distribution des séismes, avec les séismes superficiels en général, donc de profondeur inférieure à 30 km, et puis dans les zones de subduction, des zones sismiques qui vont jusqu'à atteindre des profondeurs de 680 km. Et c'est bien sûr dans ces zones de limite de plaques qu'ont lieu les séismes les plus forts et les plus remarqués, donc les plus dévastateurs. Et je parlerai du séisme du Mexique, mais sans doute pas cette fois-ci. Donc, juste un seul mot sur ce qui se passe dans les zones de subduction. Vous avez ces zones de subduction sont illuminées par des zones sismiques pentues qu'on appelle les plans de Benioff, du nom du sismologue qui les a reconnus. Et donc ici, vous avez on est dans les îles Fidji, Tonga Fidji. Vous avez la plaque pacifique qui plonge dans le manteau jusqu'à des profondeurs, et elle est manifestée par des séismes jusqu'à cette profondeur de presque 700 km. Au contraire, en Amérique du Sud, on a la géométrie inverse avec la plaque océanique qui plonge sous le continent vers la droite. Et vous avez ici un histogramme montrant la sismicité en fonction de la profondeur, avec beaucoup de séismes superficiels, un trou dans la sismicité aux profondeurs intermédiaires et de nouveau de nombreux séismes à très grande profondeur dont la nature nous échappe jusqu'à présent. J'en parlerai pas beaucoup dans le cours de cette année. Ces zones de Benioff, parfois, on a assez de résolution par les méthodes modernes de localisation des séismes pour voir qu'elles constituent deux bandes séparées qui encadre la zone de subduction, et par ailleurs, les méthodes de tomographie sismique nous permettent de faire l'imagerie et de voir ces plaques de subduction ici indiquées en bleu. Elles sont bleues parce qu'elles sont plus froides et donc correspondent à des ondes sismiques qui se propagent plus rapidement à l'intérieur de ces plaques. Et en blanc, vous avez la sismicité correspondante. Donc il faut retenir cette géométrie, elle est très importante. C'est elle qui va déterminer la géométrie des plans de faille donc, qu'on va observer dans les zones tectoniques. Alors, nous allons revenir maintenant au plus fort séisme dans le monde dont je vous ai parlé déjà un peu. Donc en Chili, Alaska, Sumatra, Andaman, etc. Et pour simplement redire encore une fois que ces plus forts séismes ont eu lieu dans ces zones de subduction. L'exception étant, ce n'est pas vraiment une exception, mais le séisme d'Assam qui correspond à une zone de convergence entre deux plaques continentales, alors que les autres correspondent à des zones de convergence entre une plaque océanique et une plaque continentale ou deux régions océaniques. Alors, je voulais simplement aussi indiquer qu'il y a quand même des séismes profonds qui sont très forts. Par exemple, très récemment, en 2013, il y a eu un séisme de magnitude 8.3 à une profondeur de 609 km, donc dans la mer au-dessous de la mer d'Okhotsk. D'autres séismes célèbres, profonds, c'est celui de Bolivie de 1994, d'une magnitude de 8.2 à une profondeur de 650 km. Ce séisme est célèbre parce qu'il a en fait été ressenti jusqu'à Toronto, dans les très, très hautes tours de Toronto. On l'a ressenti dans les étages supérieurs de ces tours qui donc ont été où le mouvement a été amplifié. Mais ils n'ont pas ces séismes profonds en général ne créent pas de dégâts. Il y a souvent des séismes profonds dans les îles Tonga, Fidji, souvent de magnitude supérieure à 7,5. Quand on regarde l'énergie dégagée dans les séismes au cours du temps, ici depuis 1977, donc sur 40 ans, on voit, alors ici c'est le moment sismique, hein, donc cette mesure physique de la taille du séisme, dont on déduit la magnitude MW, ces moments sismiques se mesurent en 10 puissance 30, 10 cm, c'est dans le système CGS, hein, l'ancien système d'unité, il faut enlever une puissance de 7 pour obtenir les mesures dans le système international qui serait des newton-mètres. Et on voit une accumulation donc, de moments sismiques dégagés qui est ponctuée par les séismes de magnitude supérieure à 8. C'est surtout eux qu'on voit dans ces courbes. Le reste des séismes ne contribue pas énormément à cette énergie dégagée. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, ça me vient à parler un peu de la loi de Gutenberg-Richter, qui est une loi importante, qui résulte donc de nombreuses observations au cours des dernières 100 années, c'est que en fait les séismes, le nombre de séismes, ici je n'ai pas indiqué, mais ça c'est le nombre de séismes en fonction de la magnitude, suit une loi d'échelle logarithmique. Il y a 10 fois plus de séismes d'une magnitude 6 que d'une magnitude 7, et de même, il y a 10 fois plus de séismes de magnitude 7 que de magnitude 8, etc. Donc les très forts séismes sont des séismes rares. Ce qui se passe dans cette zone de magnitude très grande, nous y reviendrons sans doute, il y a cette loi d'échelle ainsi exprimée par une pente qui est négative et de valeur en moyenne de 1, c'est ce qu'on appelle la b-value en anglais, et qui donc résulte dans une échelle qui donne le logarithme du nombre de séismes reliés à sa magnitude par cette relation avec deux constantes, A moins Bm, moins B c'est la pente de 1, ici, ou de moins 1 plutôt, c'est une pente négative, et A est une constante qui va dépendre de la région dans laquelle on se trouve, qui va dépendre du fait si la région est très sismique ou moins sismique. Ici c'est une moyenne, donc la moyenne globale. Et donc, ici c'est encore une fois pour indiquer que le nombre de séismes auquel on peut s'attendre par an, de l'ordre de 1 pour des magnitudes 8, et quand on arrive aux très faibles magnitudes, 1,9 ici, on arrive à des quantités très importantes, de l'ordre de 3 millions. Ce genre de séismes ne sont pas ressentis en général, mais captés très bien par des instruments, et on peut aller jusqu'à des magnitudes négatives pour les tout petits séismes qu'on peut observer en fond de puits, dans certains réseaux sismiques qui sont installés pour regarder ce qui se passe pendant ces tout petits sismiques, tout petits séismes. C'est l'ensemble de l'étude de tous ces séismes qui va nous renseigner sur le processus physique. Et ces lois d'échelle, cette loi d'échelle logarithmique comme ceci, avec une pente de moins 1, c'est l'expression de ce qu'on appelle l'autosimilarité, donc d'un processus stochastique autosimilaire dont nous reparlerons. Alors, encore une fois, le nombre de séismes ici sur 12 ans de différentes magnitudes, comparé aux décès estimés, la correspondance n'est pas immédiate. Il y a toujours un ou deux séismes de magnitude 8 quelque part dans le monde. Ils ne sont pas tous dévastateurs, heureusement, mais ils le sont lorsqu'ils arrivent dans des régions peuplées ou lorsqu'ils sont accompagnés de tsunamis. Pour montrer une échelle en en quantité d'énergie dégagée équivalente. Donc le séisme de Chili ici, magnitude 9.5, ici une échelle de magnitude, ici donc en équivalent de kilotonnes d'explosifs. On peut comparer l'énergie dégagée pendant ces séismes-là à différents autres séismes, dont en particulier les séismes de Loma Prieta, donc, dont j'ai parlé aussi déjà en 89, donc, qui est ici donc à presque deux échelles de magnitude plus faibles que le séisme de Chili, et d'autres phénomènes tels que les éruptions volcaniques ici, les Krakatoa, le mont Sainte-Hélène, et malheureusement les bombes atomiques et d'autres tests nucléaires, les énergies dégagées par d'autres phénomènes comme une tornade moyenne, par exemple, ici. Donc les séismes correspondent à quand même, les très forts séismes, à une très grande énergie dégagée. Tout cela dans un intervalle de temps très faible. Alors, revenons pour finir. Je vais vous donner un avant-goût de ce dont je vais parler la semaine prochaine, à cette théorie du rebond élastique. Donc, avec des formations lentes qui peut avoir lieu pendant quelques dizaines, centaines d'années, et un rebond très instantané au cours d'un séisme, avec dégagement d'énergie sismique. Regardons ce qui se passe dans une zone de subduction. Donc, très schématiquement, ici nous avons la lithosphère océanique qui va plonger sous la lithosphère continentale, avec à l'arrière la formation de chaînes de montagnes, comme par exemple dans les Andes. Ici, c'est pour donner des échelles de longueur. La longueur d'une faille pourrait avoir, de très grand fort séisme pourrait avoir 500 à 1000 km de longueur. La largeur mesurée le long ici du pendage de la faille peut être de l'ordre de 30 à 150 km. Nous allons voir que cette largeur est limitée par les propriétés des roches. Quand on s'enfonce dans l'intérieur de la Terre, la pression et la température augmentent, et à partir d'une certaine profondeur, les roches ne cassent plus, mais se déforment de manière plastique. Et donc, on va avoir des phénomènes qui sont de plus en plus observés et de plus en plus intéressants dans les années récentes, qui vont correspondre à des phénomènes non détectés sismiquement, ou du moins pas aux fréquences sismiques normales, enfin, aux mêmes fréquences que celles des gros tremblements de terre. Alors, ce qui se passe encore une fois, vous avez, pendant la période intersismique, c'est la même chose, mais maintenant avec une géométrie différente, vous avez la plaque qui plonge, la faille ici est bloquée, donc vous avez une déformation de la plaque qui est au-dessus, qui s'accumule, accumulation des contraintes ou des forces dues au mouvement des plaques qui peuvent durer des centaines d'années. Pendant la rupture co-sismique, vous avez un relâchement des contraintes. Tout à coup, vous voyez, cette déformation va se réajuster et provoquer peu à peu le plongement de la plaque vers la profondeur. Et celle-ci dure donc de dizaines à des centaines de secondes suivant la taille du séisme. Si c'est un très gros séisme, ça va être quelques minutes. Pour des petits séismes, ça peut être même moins de quelques secondes. Et ensuite, vous allez avoir une période post-sismique avec des réajustements viscoélastiques et aussi des répliques, donc des répliques sismiques dont nous allons aussi parler parce qu'elles nous renseignent sur le processus sismique. Alors, par exemple, ici, si on a un glissement de 12 mètres, c'est-à-dire 1200 cm, dans une région de convergence de 30 cm par an, on va pouvoir voir estimer, donc de manière extrêmement simpliste, un temps de récurrence moyen de l'ordre de 400 ans pour ce genre de séisme. Ça donne l'idée du concept d'un séisme caractéristique, donc basé sur un concept extrêmement simple d'accumulation des contraintes et relâchement purement sismique et qui est basé sur sur l'idée que les plaques, le mouvement des plaques sont constants, vitesse constante, que toutes les structures sont régulières tous ces phénomènes sont périodiques. En réalité, c'est plus compliqué, malheureusement, parce que sinon, on pourrait prédire les séismes. Alors, juste, bon, j'ai encore 2 minutes, je vais montrer encore une petite vidéo montrant le concept derrière ce qui se passe donc, au niveau de la faille. Au niveau de la faille, vous avez un coefficient de friction qui dépend des conditions sur la faille et qui peut être représenté de manière très schématique par une masse sur un support tiré avec une certaine vitesse par l'intermédiaire d'un ressort de constante élastique K. Alors le ressort va tirer la masse, mais la masse ne va se déplacer que lorsque le ressort va se tendre d'une certaine distance, et à ce moment-là, la masse va se déplacer de manière brutale. Alors c'est ça, j'ai tiré ce petit film de YouTube qui montre comment ce genre de phénomène peut être régulier et peut dépendre des conditions locales. Donc ici, on ajoute des masses. On va voir la comparaison de la situation quand on ajoute progressivement des masses, donc des masses de plus en plus grandes qui vont donner une contrainte normale de plus en plus forte. Et modifier le comportement de ce système. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le faire marcher. Alors, vous allez le voir. Donc, la masse, celle qui est la plus légère, va se déplacer régulièrement. Quand vous ajoutez de la masse, elle se déplace relativement régulièrement aussi dans ce système simple, mais plus lentement. Et plus vous rajoutez de masse, si vous regardez les autres systèmes, vous devez attendre un peu plus longtemps avant de voir les masses se déplacer. Celui-ci et celui-ci se déplacent de plus en plus, avec des écartements de temps de plus en plus grands. Donc ça, c'est aussi un concept très simple de base qui nous sert de référence lorsque on considère les séismes. Donc je vais m'arrêter là. Et je vais continuer la semaine prochaine. Je vais parler d'autres concepts de base et commencer à parler des résultats récents. Voilà, je vous remercie.